9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Surtout avec le docteur Delabo, le lundi, vous le savez, c'est Delabo hein, pour tout le monde. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bon début de semaine à tous. Comment ça va, Doc?
Bah, ça va mieux depuis que tu t'arrêtes de me martyriser. Il arrête pas, tu es arrivé, je suis arrivé de bonne heure pour lui faire la bise, pour prendre le café qu'il m'a offert, merci Philippe. Et puis pour préparer l'émission avec soin, il arrête pas de me tarabuster,
parle
de me
avec
disputer.
Stéphanie, mais non.
Il veut que je parle des véganes, mais j'ai pas envie.
Docteur Delabo, oui. Vous êtes taquin, vous savez.
Oui,
Philippe. C'est pour ça que je vous aime.
Bah oui, mais tu sais bien.
Que... Faites ce que vous voulez, c'est votre émission.
Ah, ça, c'est. Alors, ça, c'est très gentil, eh bien.
Faites ce que vous voulez.
Non, je vais faire ce que tu veux.
Je viens vous chercher à 10h. Non, mais non, on parlera des véganes, je vous promets. Je vous promets.
Bon, j'en ai un petit peu parlé dans l'émission.
Avec Manu, je vous laisserai Manu, il fera l'émission avec vous.
Si vous n'avez pas écouté l'émission précédente, eh bien prenez-en le petit bout de la fin, vous verrez, on y parle des véganes.
Bon, on parlera des véganes.
Ceci posé, j'ai un petit message pour Mohamed. Mohamed, attention, je suis au courant de vos débordements nutritionnels. Ça n'est pas raisonnable, Mohamed, de manger n'importe quoi. Attention.
N'importe
oui,
quoi
mon petit
et n'importe
doigt me
quand.
L'a raconté. Ceci posé, bonne journée Mohamed.
Bien, c'est la semaine santé du doc pour commencer avec lundi de la fleur d'oranger contre les pieds secs. Vous êtes allé chercher ça.
Ah, je l'ai trouvé hier, ouais. J'étais mort de rire. Un gentil remède de grand-mère. Bon, pas toute seule, hein, la fleur d'oranger. Il faut la faire en préparation avec ce qu'on n'utilise pas. Mais il faut mettre 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger pour 1 litre d'huile de tournesol. J'avoue que ça me fait sourire.
C'est grave, votre truc, hein.
Parce que je pense en lisant à la recette du pâté d'alouette dans lequel on additionne un cheval, une alouette, un cheval, une alouette, un cheval, une alouette. C'est à peu près ça. En tout cas, ça donne une bonne odeur de pied, ce qui n'est pas désagréable, surtout pour l'entourage.
C'est déjà ça. Non, mais ça doit être tellement gras, ce truc.
Ben oui. Bon. Tu tartines ça sur la couenne, comme on dit.
Mais si ça se trouve, ça fonctionne très très bien.
Mais comme toutes les huiles. Non, mais je veux dire, c'est l'huile de tournesol qui fonctionne. C'est pas la fleur d'oranger.
Ah bon, c'est pas.
Ben, bien
bon,
sûr.
Bien.
C'est ça qui est marrant. C'est quand vous mettez une huile très douce, comme l'huile de caméline, par exemple, alors là, ça va vous coûter.
C'est beaucoup plus cher, hein. Ouais.
Ça va vous coûter.
Surtout si vous faites du 46.
Parce que l'huile de tournesol a un avantage. Et qu'elle n'est pas chère. Mais je vous signale que les Tahitiennes se mettent de l'huile de tiare sur le corps. Et c'est pour ça qu'elles ont une peau, paraît-il, absolument magnifique. Je ne sais pas, je n'ai pas encore caressé de peau de Tahitienne, mais la peau de Guilou est très très mince et très très fine.
Mon Dieu.
Non, appelle-moi là, on est entre nous, Philippe.
Allez, mardi, 6 bons conseils pour garder sa maison au chaud l'hiver. Ça va peut-être nous faire des économies.
Oui, mais j'ai trouvé que c'était pas idiot, mais c'est amusant parce qu'on revient des années en arrière.
C'est du bon sens. Vous savez,
c'est du bon sens qui existait chez nos grands-parents. Et comme j'ai 76 ans, vous imaginez, depuis le temps. Eh bien, chez mes grands-parents, on mettait des rideaux épais aux fenêtres qu'on tirait tous les soirs. Mais il fallait les ouvrir dans la journée pour toutes les fenêtres exposées au sud, bien entendu, puisque c'est par là que le soleil arrive. Mmh. Et le soleil chauffe très très bien l'intérieur des pièces en hiver à cause des vitres qui transmettent les rayons infrarouges. Mmh. Utiliser des boudins de porte confectionnés avec des morceaux de tissu, c'était marrant, jouer avec. Ma grand-mère hurlait parce que ça foutait des courants d'air partout. Mettre également un rideau à la porte d'entrée, surtout si celle-ci est vitrée. Dépoussiérer vos radiateurs avant de les mettre en chauffe. Alors ça c'est important, on n'y pense jamais. Ça dépend un peu de vos radiateurs. C'est valable pour des radiateurs à convection. Mais pour des radiateurs à huile, par exemple, ou autre, on s'en fout, ça changera rien.
Ouais.
Et il faut bien, c'est pas la peine d'aller dépoussiérer votre radiateur à huile, encore que, ben, ma foi, ça le nettoie, il est plus joli, mais c'est pas nécessaire. Parce que si c'est un radiateur à convection, convecteur,
ça va sentir.
Ça sent une horrible odeur de poussière chauffée, c'est pas... Et puis enfin, mettre un tapis sur le sol, surtout si le sol est en carrelage. Le conseil le plus important, ne pas surchauffer votre maison. Entre 18 et 20 degrés, température maximale les 20 degrés, qui vous permettra de ne pas subir un choc thermique, non seulement quand vous mettez le nez dehors, mais quand vous rentrez. Parce que vous provoquez une vasodilatation énorme ou une constriction énorme de vos vaisseaux, et vous allez provoquer des ennuis au point de vue retour veineux et au point de vue cardiaque.
Il est passé votre tigre ou pas, docteur Delabo?
Oui, ça va là.
Ça va, c'est mieux parce que ça vous fait, c'est mieux parce que ça vous a une petite voix un peu de ronfleur. Mercredi, alors on est toujours dans la beauté et dans les trucs de grand-mère, un masque au pissenlit contre la poterne.
Non, contre la peau terne.
La peau terne.
Parce que si tu dis contre la poterne,
c'est pas la même
chose. On va se demander ce que tu fais avec ton masque de pissenlit. Ça se met avec de la crème fraîche.
Ah.
et on garde ça sur la figure pendant 15 minutes, après quoi on rince à l'eau de rose, ou alors on demande au chat de la maison de venir, ils adorent la crème, et il va vous nettoyer la figure, sauf que la langue de chat, c'est vachement râpeux. Bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est moins cher que les grands produits de beauté, et puis ça vous changera du masque à la betterave, à l'oignon, au concombre, et toutes diverses plantes dévariées, qui vous donnent un visage rigolo de jaunisse, quand même moins moche que le masque à la betterave, très utile en revanche pendant la période d'Halloween. Sérieusement, entretenez votre peau en veillant surtout à ne pas manger n'importe quoi, n'importe quand. Car vous ne le savez sans doute pas, mais votre peau n'aime pas du tout certains aliments qui lui font du mal. Au cas où vous l'auriez oublié, la peau est le plus grand organe de notre corps et le principal élément garantissant notre survie. Alors, ménagez cet organe vital en évitant avant tout de fumer. Ça donne vraiment une peau de crocodile, ou de boire, ça donne vraiment une peau pas jolie. Deux mauvaises habitudes particulièrement agressives pour la peau.
Mais le pissenlit, alors, c'est bien ou pas bien?
Bon, c'est comme le reste. Hein, c'est la crème qui va arranger
c'est
la peau,
crème, c'est pour c'est, le pissenlit. C'est pas le pissenlit.
Mais bien. Non, mais c'est tout comme tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai rigolé, parce que c'est en fait c'est le substrat qui va être le plus efficace.
Je dis de l'huile de jasmin contre le stress. Alors, c'est quoi l'huile de jasmin?
Bah, c'est une fleur, le jasmin. Et c'est une huile qui doit coûter la peau des fesses parce que...
Ça sent super bon, en plus, ça.
Ça sent super bon. Je suis un peu surpris que l'huile de jasmin puisse être utilisée contre le stress. Jusqu'au moment où je rigole, pardonnez-moi, mais je lis que celle-ci est efficace. Surtout si on se fait masser. Bon. Évidemment. Évidemment. N'importe quelle huile vous fera du bien et vous détendra si vous vous en servez pour vous masser et ainsi vous permettre de vous détendre complètement. C'est la même chose et c'est à chaque fois la même chose. C'est pas l'huile qui est efficace, c'est le masseur ou la masseuse. Mmh. Alors très sincèrement, peu importe l'huile pourvu qu'elle sente bon, ce qui est le cas du jasmin, et qu'elle vous fasse du bien. Attention, je parle de l'huile, pas du masseur ou de la masseuse. Hein.
Alors, une étude,
un peu sérieux.
Vendredi, docteur Delabo, plus on est grand, plus le risque de cancer augmenterait.
Bon, voilà qui va rassurer les petits qui vont se croire à l'abri. Mais malheureusement, c'est une fake news, une fausse nouvelle. Qu'elle soit bonne ou mauvaise pour les uns et pour les autres, les instigateurs de l'étude ont quand même eu la prudence à la fin de celle-ci de conclure en disant que si on est grand, en même temps on a plus de moyens de défense. Ce qui d'ailleurs n'a pas plus de sens que d'affirmer qu'en grandissant, on risque d'être plus sujet au cancer. Car c'est vraiment ignorer complètement que la chaîne d'ADN est le grand responsable de notre défense, de nos moyens de défense, en même temps que nos faiblesses. Ce que la médecine ultramoderne est en train de découvrir et de démontrer. J'ai un peu l'impression de me retrouver au début du XXe siècle, quand des chercheurs de renom pensaient que le chemin de fer était dangereux car on allait s'asphyxier dans les tunnels. Ça relève vraiment du manque total d'esprit cartésien. Commençons donc par trouver des preuves avant de tirer des conclusions un peu hâtives.
Samedi, des calamars frits qui n'en seraient pas.
Alors là, oui. Là, franchement, là, non mais vous allez être un peu estomaqué. Moi, j'avoue que j'ai rigolé comme une baleine, mais j'ai moins ri parce que j'adore les calamars, j'en ai beaucoup mangé. Cramponnez-vous si vous avez mangé également récemment des calamars frits. Alors attention, là, tu vas franchement, Zora, là, ça va te faire drôle. Certains seraient en fait des morceaux d'anus ou de rectum de porc. J'en suis resté pantois devant le titre, mais la suite m'a rassuré car il s'agit en fait d'un canular d'assez mauvais goût. C'est une fake news qui date de plusieurs années. Ouf, moi qui adore les calamars frits. C'est ce que les anglo-saxons appellent des fake news, qui sont pour moi la preuve notoire qu'un grand nombre de gens deviennent malheureusement des calamars, mot qui va devenir à la mode pour désigner les trous du cul, capables de galvauder n'importe quelle nouvelle pour se rendre intéressant, avec, en ce qui en concerne, l'effet inverse de les trouver complètement stupides.
Bien, donc c'était faux, docteur Delabo, on peut commencer oui, et continuer à manger des calamars.
Mais quel est le crétin qui a eu l'idée de lancer une imbécilité pareille? Non, mais on reste pantois.
S'il le lance, c'est qu'il y a des gens...
Un calamar, c'est un calamar.
Voilà, qui peuvent les croire. Nous avons changé d'heure, docteur Delabo, nous sommes passés à l'heure d'hiver.
Ah, merde.
Certains ressentent un petit coup de mou avec le changement de...
Il n'est pas 10h?
Non, il n'est pas 10h. Non, non, il est que 9h.
Ah, et, je me sentais drôle.
Et j'ai lu dans la presse médicale que ce petit coup de mou passager serait dû à un déséquilibre entre la mélatonine, qui est produite en plus grande quantité, et la sérotonine, dont l'action est diminuée. Vrai ou faux?
Non, c'est vrai.
C'est vrai?
C'est vrai. C'est vrai, mais je rigole. Les couche-toi une heure plus tôt, et puis ça ne va pas s'inverser. Le problème que vous subissez les uns les autres, c'est de vous coucher toujours à la même heure, mais plus tard, en fait, qu'il naît, et de vous lever à la même heure, mais en fait, plus tôt qu'il naît. Je me suis réveillé ce matin à 6h, parce que je me réveille toujours à 7h. Je me suis donc réveillé une heure plus tôt. Mais j'avais pris la précaution de me coucher une heure plus tôt et de m'endormir une heure plus tôt, si bien que, désolé messieurs les chercheurs, mais mon cycle du cortisol s'est parfaitement adapté à cette nouvelle situation.
Oui, mais parce que vous, vous êtes médecin et que vous avez anticipé...
Non, j'ai du bon sens. Si l'heure est décalée d'une heure, décale tout d'une heure et ça va très bien. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour avoir compris ça. Si! Mais être scientifique, par contre, ça pose des problèmes, manifestement, parce qu'ils nous mettent vraiment en garde. Hein.
Bon, alors, parce que j'expliquais à un de vos confrères qui était en train de rappeler, justement, ce matin, très tôt à la radio, à 5 heures, qui expliquait ce que c'était que le cycle du cortisol, et qui expliquait que quand on changeait d'heure, eh bien, il y avait une petite modification.
Ben, il y a une modification évidente quand on change d'heure, sauf si on respecte, si on suit le changement d'heure, puisque le corps humain, il s'en fout éperdument de l'heure qu'il est, ni de quoi que ce soit, il s'en fiche. Simplement, si on va se coucher apparemment à la même heure, mais en fait plus tard, et qu'on se lève plus tôt, parce qu'en général c'est ce qui se passe, parce qu'on est réveillé plus tôt par rapport à l'heure, il faut donc penser à décaler l'heure du coucher pour ne surtout pas risquer que votre cycle du cortisol se déséquilibre. Il a raison, mais la solution est archi simple, et on peut très bien ne pas subir le choc. Je n'ai pas subi le choc.
Suis en pleine forme. C'est le fait de dormir une heure de moins qui provoque ce...
C'est le fait de dormir une heure de moins, c'est-à-dire non, de se réveiller plus tôt. Le cycle du cortisol n'a pas fini de faire tout son boulot. Tout le monde sait.
C'est de quand à quand le cycle du cortisol?
Ça commence à partir de la fin du sommeil profond. À partir du sommeil paradoxal, 3 ou 4 heures, ça dépend des gens, 3 ou 4 heures après votre sommeil profond, le cycle du cortisol va se déclencher. Tu sais très bien, Philippe, et je pense que mon confrère le savait très bien aussi, toute la chrononutrition est basée sur le cycle du cortisol. Donc bravo à ceux qui en parlent, merci à ceux qui disent, qui expliquent que le cycle du cortisol est extrêmement important. Mais il faut savoir que le cerveau primitif gère son cycle du cortisol comme il le veut, à condition de respecter des heures de sommeil et des heures de veille. C'est pour ça, et ça va vous intéresser tous et toutes, que je dis que pendant le ramadan, il faut absolument que vous ayez des heures de sommeil régulières, peu importe l'heure à laquelle vous les prenez, de façon à ne pas esquinter votre cycle du cortisol. Voilà, vous avez la réponse à ma question par ce professeur que je remercie d'avoir donné des renseignements.
Et ça sert à quoi, docteur Delabo, justement, alors ce cortisol?
C'est lui qui gère absolument toute la nutrition, tout le cycle de la nutrition, mais il n'y a pas que le cycle de la nutrition. Je parle de ma spécialité, mais ça intervient sur énormément, ça intervient en fait sur pratiquement tout le fonctionnement du corps humain. C'est pour ça que c'est l'élément le plus important. Tout comme le tryptophane est la protéine la plus intéressante de tous les acides aminés, de la même manière, le cortisol est l'hormone la plus intéressante et la plus utile au fonctionnement du corps humain.
Et donc, ce même spécialiste est en train de spécifier que le changement d'heure pouvait expliquer qu'on avait envie de manger plus et plus sucré.
Parce qu'on est fatigué. C'est à cause de la fatigue. L'explication est très simple. Si vous dormez une heure de moins, vous allez avoir beaucoup plus faim que si vous dormez suffisamment. C'est tout simple, c'est tout bête.
C'est-à-dire que, oui, si on est fatigué, on a envie de manger plus, en fait, c'est ça.
Quand j'ai des patients qui me disent, docteur, c'est bloqué en ce moment et tout, etc., que je regarde leur tête, ils sont fatigués, je dis, qu'est-ce que vous avez fabriqué? Alors, ils ont travaillé comme des fous, ils ont moins dormi, et ils mangent plus. Et quand on est fatigué, on grossit, c'est obligatoire, c'est quasiment obligatoire. Ou alors, si on maigrit, c'est grave, là ça devient très très grave. Parce que ça veut dire qu'on ne sait pas compenser la fatigue supplémentaire et qu'en conséquence, on risque des problèmes. C'est ce qui a failli m'arriver il y a une trentaine d'années, quand un de mes copains m'a dit, c'est très bien, tu n'as rien, mais tu vas mourir. J'étais simplement en excès d'activité et je ne mangeais pas suffisamment par rapport à ce que je faisais.
C'est-à-dire que quand on est fatigué, donc pour compenser, on mange plus.
C'est obligé.
Voilà, donc c'est l'explication. Et plus sucré.
Alors, pour éviter de manger plus sucré, ça c'est parce que l'erreur consiste à croire qu'en mangeant sucré, on va se défatiguer plus facilement. Il faut au contraire manger plus carnivore quand on est fatigué. Il faut augmenter le fromage le matin et la viande le midi le plus possible. Et vous verrez que non seulement vous ne grossirez pas, mais que vous vous défatiguerez et que vous aurez moins besoin de sommeil. N'en abusez pas quand même.
Bien, alors, une question d'auditeur qui vous interrogeait sur les triglycérides, on en parlera dans un instant, et je vous rappelle que si vous voulez poser vos questions au docteur Delabo, vous composez le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Tous les lundis, le docteur Delabo est avec vous et vous pourrez l'interroger tout à l'heure au 01 53 48 3000 doc. On va parler des triglycérides suite à une question d'auditeur qui voulait faire baisser son taux de triglycérides. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les triglycérides ?
Les triglycérides, c'est un des précurseurs du cholestérol. C'est derrière, vous avez l'échylomicron qui est une espèce de pâte ressemblant à de la maïzena. Je l'ai déjà expliqué 20 fois, mais c'est tout bien pour un prof de redire à nouveau. Le bol alimentaire dans l'intestin fait passer au travers de la paroi intestinale des chylomicrons, qui ressemblent donc à de la maïzena, lequel va se transformer en triglycérides, et lesquels vont se métaboliser progressivement et aboutir au cycle du cortisol. Alors, première réponse qui va vous rassurer, les triglycérides en excès, ça n'est pas dangereux.
Alors, on en entend parler de plus en plus, et oui, entend de plus en plus parler de gens qui disent, oui, voilà, j'ai trop de triglycérides, mon médecin demande à ce qu'il baisse.
Il n'y a rien de plus facile.
Oui.
En fait, l'hypertension...
Mais avant de les faire baisser, c'est pourquoi est-ce qu'un taux de triglycérides...
C'est exactement ce que j'allais t'expliquer. Oh, il boude.
Vas-y,
verriez, c'est étonnant. Il est marrant, il boude.
Allez-y, docteur Delabo.
Tu me fais rire. Les triglycérides augmentent quand on ajoute du sucre à la fin d'un repas gras et d'un repas de protéines. Pourquoi ? Parce que les triglycérides vont bloquer complètement la métabolisation des gras et tout va se transformer en une grande partie du bol alimentaire va se transformer en triglycérides au lieu de se transformer en gras, de se transformer en protéines ou d'être métabolisé pour ensuite créer les cellules. Bien. L'exemple le plus frappant, c'est les triglycérides du lundi matin. Vous avez fait un repas de fête ou un Aïd le dimanche. Mmh. Le lundi matin, vous faites votre examen de sang. Vous avez des triglycérides qui peuvent grimper à 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, suivant la quantité de gâteaux, de sucre lent, de sucre rapide et de jus de fruits que vous avez avalé en même temps que vous avez mangé une bonne chorba. D'ailleurs, dans la chorba, vous avez une énorme quantité de triglycérides. Si vous mangez trop de l'aliment qui accompagne la chorba.
Donc, c'est l'alliance du gras et du sucre.
Des sucres rapides et des sucres lents. Mmh. Et des sucres lents.
Est-ce qu'il y a un bon taux ?
Il faut qu'il soit dans les 1,50 g. On voit quelquefois des triglycérides inférieurs à 1 g. On voit des triglycérides à 1,70 g. Mmh. Très sincèrement, je ne m'en suis jamais soucié pour une raison très précise. C'est que, tu le sais, Philippe, j'exerce depuis une bonne cinquantaine d'années. Et j'ai constaté depuis très longtemps que jamais un de mes patients n'était mort ou n'avait eu de graves problèmes de santé à cause d'une hypertriglycéridémie. J'ai un patient qui est monté jusqu'à 17 grammes. Bon, il faut dire qu'il ne suçait pas que de la glace. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, et ça fait particulièrement monter les triglycérides. Donc, il n'était pas raisonnable et il se nourrissait de gâteaux et de boissons alcoolisées. Attention, cependant, il y a un risque adjacent qui est, lui, redoutable, c'est le risque de faire un cancer du pancréas, dont est mort mon frère aîné, qui était tout pharmacien qu'il était, quand on ne mange plus que des sucres rapides et des sucres lents, avec ou sans alcool, attention. C'est pas nécessaire de boire de l'alcool pour faire monter ces triglycérides, ne croyez pas ça.
Alors,
méfiez-vous.
On dit que le tour de taille assez large serait un bon indicateur du taux de triglycérides sanguin. C'est-à-dire que les gens qui auraient du ventre, finalement, sont plus sujets à avoir un taux de triglycérides élevé.
C'est faux. C'est faux. Les gens qui ont du ventre ont ce qu'on appelle, ont quasiment tous la malchance d'avoir une stéatose hépatique, c'est-à-dire une accumulation de gras importante dans le foie. Parce que pour éviter d'avoir trop de triglycérides dans le sang, l'organisme se dépêche de transformer tout ça en gras qui va stocker dans le foie, et chez l'homme, dans les organes, chez la femme, autour des organes. Les femmes ont moins de risques de mortels avec la stéatose parce qu'elles la mettent en général plutôt autour des organes que dedans. C'est pour ça.
Hein?
Tu disais c'est pour ça.
Non, c'est parce qu'elles le mettent pas au même endroit que c'est moins dangereux.
Ouais. Elles le mettent là où ça fait moins de dégâts. Mm-hmm. Elles sont plus malignes que nous. Tandis que nous, on le colle à l'intérieur des organes et on peut très bien, je me suis aperçu, et ça demande d'être vérifié, mais j'ai encore jamais trouvé un service de pneumo qui puisse m'écouter, de pneumologie. Il y a certainement une stéatose pulmonaire dans les difficultés respiratoires, les insuffisances respiratoires non étiquetées où on dit je comprends pas pourquoi il ou elle a du mal à respirer. Si vous regardez, il faudrait faire une... Maintenant, on a les moyens de regarder, il y a certainement une stéatose pulmonaire.
Quels sont les aliments qui permettent donc de faire baisser les triglycérides?
C'est pas l'aliment qui fait baisser, c'est ne pas mettre des sucres rapides ou en même temps que du gras et des protéines, et mettre une quantité de sucre lent normale, suffisante pour que le sucre lent puisse être utilisé et non pas stocké. Donc, permettre au sucre, si vous voulez, d'être immédiatement utilisé, c'est ce que croient certains coachs qui malheureusement utilisent le sucre en quantité industrielle, c'est le cas de le dire, et finissent par malheureusement présenter un diabète insulino-dépendant. Donc c'est gravissime. Attention à ne pas vous gaver de sucre, ça ne remplacera jamais les protéines ni les corps gras.
Deuxième question, docteur Delabo, on nous interroge sur le petit déjeuner idéal. Parce que c'est vrai qu'on a parlé du jus d'orange, tout le monde a dit mais pourquoi faut pas boire de jus d'orange le matin? Pourquoi le doc il dit que c'est pas bon de prendre du jus d'orange le matin? Et donc beaucoup demandent quel serait selon vous le petit déjeuner idéal en fonction plus ou moins des heures auxquelles on se lève, qu'on se lève à 4h30, 5h, 6h, 7h ou 8h.
Alors, avant tout, permets-moi de saluer Souria, une de mes élèves, qui a inauguré le premier apprentissage et le premier diplôme passé par Skype. Souria a assisté à tous mes cours la semaine dernière. Je la salue et je l'embrasse parce que cette fois, je peux le faire autrement que virtuellement. Et je suis très heureux qu'elle soit venue. Sauf que j'ai oublié les bouquins que je devais t'amener. Mais enfin, à part ça, c'est pas grave. Je te les ramènerai la semaine prochaine. Ah, ça, c'est mon téléphone. Peux-tu couper mon téléphone, Souria, s'il te plaît?
Ça se passe en direct. Alors, petit déjeuner, docteur Delabo.
Le petit déjeuner idéal. Le petit déjeuner idéal, c'est un assemblage de protéines faciles à digérer, de gras saturés et de sucre lent et de protéines végétales. Donc, en animal, le fromage, qui contient exactement les trois éléments dont je viens de vous parler en quantité idéale pour le petit déjeuner, accompagné avec du pain, une céréale, dont les protéines sont extrêmement nourrissantes et qui comporte une quantité suffisante de sucre lent pour assurer la dépense d'énergie dans la matinée. Il faut y ajouter idéalement de l'huile d'olive, qui est un gras saturé, polyinsaturé, monoinsaturé, extrêmement complexe, ce qui fait son intérêt parce qu'il va apporter à l'organisme énormément de gras différents, ce qui va lui permettre de choisir dedans et d'aller fabriquer ses cellules, de faire tout son métabolisme. Il faut que vous sachiez que le petit déjeuner, tel que je viens de vous le décrire, vous allez le métaboliser en 12 heures. Vous allez le digérer tout de suite.
Ce qui est long.
Et vous allez le métaboliser en 12 heures, parce qu'il va falloir transformer les gras saturés en gras polyinsaturés qui vont servir, comme je l'ai expliqué à mes élèves la semaine dernière, à fabriquer vos parois cellulaires dans la nuit. Donc c'est un point important de la journée qu'il ne faut pas rater. Il faut bien penser que si vous mangez des gras saturés le matin, c'est très sain. Mais ça veut dire aussi que si vous les mangez trop tard, c'est très mauvais.
Vous ne pourrez pas les digérer. Exactement. Et les métaboliser dans le temps imparti.
Exactement.
Parce qu'il n'y aura pas assez de temps.
Et tout à fait. Et non seulement il n'y aura pas assez de temps, mais on demanderait à ce moment-là à l'organisme deux travaux différents, réparer et en même temps métaboliser, c'est-à-dire être à la fois, comment on dit déjà, au four et au moulin.
Oui, c'est exactement ça.
Parole de Meunier.
Alors, docteur Delabo, du pain, du fromage, de l'huile d'olive, qu'est-ce qu'on boit?
Du café, du thé, des infusions, de l'eau.
Donc là, pas de contre-indication?
Non, au contraire, c'est même recommandé. Moi, j'adore mettre ma tartine de fromage dans mon café. Mon épouse est dans son thé. Mais attention, surtout pas de sucre rapide. Vous bloqueriez complètement toute la métabolisation de vos gras saturés. Le gras saturé, c'est un élément extrêmement important, mais qu'il faut pas traiter n'importe comment. Il faut pas le manger n'importe quand. Et il faut surtout ne pas lui associer des sucres, parce qu'alors là, vos triglycérides vont grimper aux arbres, et vous n'allez pas pouvoir métaboliser votre gras saturé.
Donc, pas de sucre, pas de sucrette?
Ah non, c'est pareil, ça donne un faux message à
l'organisme. Du miel?
Ben non, c'est du sucre.
Non. Donc, zéro sucre. Et on en revient.
C'est pareil. Voilà. Le jus aussi. Alors, le jus de citron. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le citron est un des agrumes les plus sucrés. Oh mais docteur, c'est acide. Bah peut-être, mais c'est sucré quand même. C'est exactement comme l'histoire du sucré salé des Indiens ou des Indonésiens. Alors
on va pas revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une vraie mode aujourd'hui et les messages sont contradictoires entre ceux qui disent que c'est très bon de prendre un petit jus de citron avec de l'eau tiède le matin pour démarrer la journée, et ceux qui disent qu'il ne faut pas.
Mais n'allez pas vous étonner, après avoir fait ça, que vos triglycérides ont grimpé et que vous n'arrivez pas à les faire descendre. Donc la première chose à faire, si vous voulez faire descendre vos triglycérides, c'est d'arrêter de prendre des sucres rapides, quels qu'ils soient, le matin au petit déjeuner. Et d'arrêter de prendre des sucres rapides à la fin d'un repas.
C'est un sucre rapide.
C'est un sucre rapide. Ça contient des, c'est plus sucré que le jus d'orange. Bah oui, c'est le plus sucré de tous les... Le pamplemousse, c'est pareil, ces trucs à goût acidulé, méfiez-vous, c'est... Enfin, méfiez-vous,
acide, ouais.
C'est acide, mais c'est acidulé, mais c'est très très sucré. Alors au goûter, bien sûr, je n'interdis pas du tout qu'on prenne des sucres rapides, mais au bon moment.
On peut déjeuner combien de temps après s'être levé au maximum?
Alors on a calculé maximum 2 heures. Si on a dormi tard, si on a décalé son cycle du cortisol, c'est ça qui est très intéressant. Donc si on s'est couché très tard et qu'on s'est levé beaucoup plus tard, on a décalé tout le cycle du cortisol. Donc on peut avoir 1 heure de plus. Idéalement, c'est dans l'heure du lever, c'est-à-dire tout de suite, comme certains. Alors, vous avez les gens qui, quand ils se lèvent, ont faim tout de suite, et d'autres qui ont faim une demi-heure ou une heure après. Il faut respecter ça. C'est votre organisme qui vous le dit.
01 53 48 3000, le standard de BORFM est à votre disposition et vous interrogez le docteur Alain Delébeau qui répond à vos questions. Karim est à Toulouse. Karim, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Karim.
Bonjour à tout le monde.
Alors
une question très sensible de ma part. Je souffre de des vertiges quand je bois le café et où je bois du lait ou je mange du fromage.
Alors attention, boire du lait et manger du fromage, ce sont deux choses très différentes. Et avoir des vertiges quand vous prenez du café, c'est encore autre chose. On peut avoir des vertiges en buvant du café tout simplement parce que vous créez une restriction des vaisseaux et vous avez la circulation du sang qui se fait moins bien. Donc, est-ce que vous buvez du café fort ou du café faible?
Café long, quoi. C'est
allongé.
Allongé, voilà.
Il n'est pas très fort.
Non.
Non, donc c'est autre chose, parce que sinon, il faudrait un café fort pour provoquer...
Mais vous les avez combien de temps après avoir bu vos cafés, Karim?
Dans l'heure qui suit, dans l'heure qui suit, quoi. Maximum.
Mais ça vous le fait uniquement quand vous... Enfin, ça peut vous le faire si vous avez uniquement bu du café ou c'est après votre petit déjeuner?
Alors, non, quand je bois le café,
ouais.
Ou du lait, ou je mange le fromage, par exemple, ou même le pain au lait, tout ce que... Alors moi, le médecin, il m'a dit que c'était le lactose et le caféine.
Ah oui, mais enfin la caféine, si votre café n'est pas très fort, oui, c'est une réponse tout à fait intelligente, mais c'est plus compliqué que ça. Il a raison, le lactose, mais le lactose, il n'y en a pas dans le fromage, donc je ne vois pas pourquoi le fromage pourrait provoquer un problème.
Ah oui.
Et puis du lactose, il n'y en a pas dans le café. La caféine, si votre café est allongé, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est possible, c'est que vous ayez un choc hépatique. C'est votre foie qui doit débloquer. Vous n'êtes pas un peu en surpoids par hasard?
Ah non, pas du tout.
Vous êtes maigre.
Non, nickel.
Il est nickel.
J'ai fait 1m78 pour 79 kilos.
Ah, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Sportif?
Ouais, sportif, ouais, bon. Musculation, tout ça, ouais.
Bon, donc, alors, il est possible que ça soit votre alimentation générale qui soit responsable d'une mise au repos de votre foie, parce que c'est toujours le matin que ça vous fait ça.
Mais docteur, je jeûne tout le lundi et le jeudi, et ça c'est bon normalement pour le foie.
Non, pas forcément.
Ah ouais?
Non, c'est pas une bonne idée. C'est le jeûne du soir qui est bon pour le foie, mais pas le jeûne toute la journée. Quand vous mettez votre foie au repos, au moment où vous le redéclenchez avec du fromage, par exemple, il va pas être capable de sécréter, il n'a pas sécrété suffisamment de bile pour pouvoir répondre à la demande de l'organisme. Et vous allez vous coller des vertiges. Donc, je pense que ce sont plutôt vos jeûnes réguliers qui vous finissent par provoquer des anomalies dans votre absorption des aliments.
Mais alors, à ce moment-là, parce que j'imagine que vous jeûnez pour des raisons religieuses, hein, le lundi et le jeudi, Karim.
Ouais.
Comment il faudrait se réalimenter pour justement éviter ces problèmes de vertige, docteur Delébeau?
Malheureusement, les jeûnes intermittents, en faisant ça, Karim, vous déclenchez un à-coup, si vous voulez, c'est comme si vous accélériez brutalement, puis vous freinez, vous réaccélérez, vous freinez, le moteur, il finit par en avoir marre de voir ce que vous faites. Donc, contrairement à l'opinion répandue, ça n'est pas physiologiquement, je ne parle pas du tout de la religion, mais d'un point de vue médical, c'est pas bon de faire ça à son organisme. Il vaut mieux faire un ramadan de 30 jours sans problème, ça ira très bien, que de faire des jeûnes comme ça intermittents, ça abîme plus la mécanique que ça ne l'arrange.
Ouais, mais moi je pense que, je sais pas, mais bien avant, je jeûnais pas comme ça, mais ça me le faisait quand même.
Oui, mais qu'est-ce que vous mangez? Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous mangez. Le matin, par exemple, qu'est-ce que vous mangez?
Le matin, comme tout le monde, le café, le fromage, des tartines au fromage, ou sinon du céréal, ou des œufs, beaucoup d'œufs, d'œufs aussi.
Ouais. Et vous buvez quoi le matin?
Jus d'orange.
Voilà. Alors, cherchez pas. Arrêtez d'abord le jus d'orange et puis vous verrez, ça peut suffire à ce que ça se calme. Ne buvez jamais de jus de fruits ni de sucre rapide le matin au petit déjeuner. Parce qu'il est possible que vous déclenchiez, ça peut être ça qui va déclencher des catastrophes avec votre foie.
D'accord.
Parce que vos vertiges ne sont pas d'origine vasculaire, heureusement pour vous, hein, parce que c'est beaucoup plus embêtant d'avoir des vaisseaux qui débloquent que d'avoir le foie qui est un peu paresseux. Ça, c'est pas grave, on arrange ça très facilement.
Ouais. Ben, je vais faire ça et je
reviens. Le midi, vous mangez quoi?
Le midi, ça dépend. Des pâtes, de la viande,
des choses comme ça. Diminuer les pâtes, qui, entre parenthèses, sont un facteur d'augmentation formidable des triglycérides quand on en mange trop. Donc, diminuer les pâtes au maximum et augmenter la viande. Vous êtes sportif, l'aliment du sportif, c'est la viande, c'est pas les pâtes.
Ouais.
C'est pas les pâtes, hein. Contrairement à ce que la plupart des coachs racontent, ça ne sont pas les sucres lents qui vont vous donner un corps magnifique. Vous avez qu'à regarder comment sont faits les Néo-Zélandais. Ils bouffent pas de pâtes. Par contre, ils bouffent un bœuf entier.
D'accord. Donc, par contre, je mange beaucoup de viande blanche. Enfin, tout ce qui est poisson, poulet. Mais après, la viande rouge.
Alors, dans ce cas-là, il y a un moyen de prouver est-ce que tout va bien ou pas. C'est très simple. Vous demandez à votre touviste de faire simplement une numération formule sanguine et un dosage de la ferritine. Et puis vous saurez si vous avez suffisamment et du fer, parce que sans le fer, on peut pas savoir. Et vous saurez si vous n'êtes pas anémié, et bien très bien. Ça veut dire que vous pouvez très bien manger que de la viande blanche.
D'accord, ok.
Il faut pas avoir d'a priori, si vous voulez. Dans mon esprit cartésien, ce qui compte, c'est d'avoir des preuves. À partir du moment où on a des preuves, on peut conclure. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut que penser que. Et penser que, en médecine, ça suffit pas.
C'est vrai, ouais. C'est
voilà,
vrai.
Mon ami.
Je suis d'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci, Karim.
Merci pour cette question qui est très intéressante.
Et puis, tenez-nous informés, en tout cas, déjà, si vous supprimez le jus d'orange, dites-nous ce qui s'est passé ensuite.
Et puis, diminuer les sucres lents. Diminuer les sucres lents.
Est-ce que vous avez autre chose à dire?
Diminuer les pâtes.
Les pâtes.
J'avais oublié le.
Les pâtes et les pâtes. Bien. Docteur Delabo est avec nous jusqu'à 10h. Si vous voulez lui poser une question, c'est maintenant. Hein, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et vous le savez, tous les lundis, le docteur Alain Delabo est avec vous. Et là maintenant, vous l'avez tout pour vous, le docteur Delabo, il répond à vos questions. Allez, on a Josette, docteur Delabo, qui vous attend au standard. Josette, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir,
Je voulais vous poser le problème. Mon mari et mon beau-frère souffrent de fructosémie depuis la naissance. Donc c'est une maladie orpheline qui est très très rare. Et bon, on a compris, enfin, comme le régime qu'il fallait leur faire à peu près, puisqu'ils n'ont pas l'enzyme qui assimile le saccharose et le fructose. Et je voudrais savoir quels conseils vous pouvez me donner pour des repas un peu qui ne changent jamais, quoi, en fait.
Oui, bonjour Josette. Bonjour. En fait,
c'est quoi comme maladie? Vous nous expliquez, docteur Delabo?
Oui, le fructose, c'est un des sucres. Il y a le fructose, le saccharose, le glucose. Et la fructose.
Il y en a dans tous les aliments.
Voilà. Pas dans tous. Hein. Enfin, dans toutes les préparations industrielles.
Non, je parle dans les aliments, dans les tomes, dans tous les fruits, dans tous les.
Oui, il y en a dans les fruits. Légumes. C'est essentiellement dans les fruits. Il n'y en a pas tellement dans les légumes.
Ah, si, il y en a dans tous les légumes.
Oui, mais si vous.
Sauf les épinards et les. Et quelques champignons. Voilà. Et même dans la pomme de terre, quand je cuisine une pomme de terre suivant la qualité, je ne sais pas s'il va la manger ou pas.
Oui, alors la vitelotte, je vous conseille d'éviter. Il y a énormément de fructose dedans.
C'est sûr.
Non, la vitelotte, c'est la pire de toutes. La betterave, c'est la pire de tous les légumes aussi.
Mm-hmm. Non, mais il n'y a que la rate qui mange, en fait.
Qu'est-ce qu'on peut manger, finalement, quand on ne peut rien manger?
Des aliments qui ne contiennent pas de fructose, ce qu'il faut, c'est regarder, tout simplement, le meilleur conseil que je peux vous donner, grâce à Internet, c'est bien, c'est quantité de fructose contenue dans les aliments. Alors, il y a des aliments que vous pouvez manger crus, et le fructose ne sortira pas. Si vous mangez des tomates...
Exactement, je m'en suis aperçu.
Mais bien sûr.
Parce que même dans les pâtes industrielles, où il y a 0,1% de sucre, dont sucre 0,1%, ça, ils le sentent. Enfin, non seulement ils le sentent, mais je veux dire, leur foie réagit, quoi.
Mmh. Oui, tout à fait. Et il faut donc leur éviter, on n'a pas d'autre solution que tout simplement de leur éviter ces aliments-là, sachant que vous pouvez manger les tomates crues, que vous pouvez manger les carottes crues, mais que vous ne devez surtout pas manger les betteraves parce qu'on les fait toujours cuire. Mais j'ai des patients qui adorent les betteraves et qui les mangent crues. Mmh. Alors, en mangeant un légume cru, le sucre ne sort pas du fruit, pour ainsi dire, parce que ce sont en fait des légumes-fruits ou des fruits-légumes, c'est comme on veut. Et bien sûr... avoir sous la main le listing de ce qui peut se manger, de ce qui ne contient pas du tout de fructose et de ce qui en contient. Bon, Dieu merci, la viande ne contient pas de fructose, c'est déjà une bonne nouvelle, mais il doit y avoir un peu de fructose dans la plupart des pains. Il faut regarder...
On peut pas manger grand-chose, hein.
Si on peut être très carnivore. Donc
oui, bah voilà.
Le principal... Le
fromage, ça passe?
Le fromage, oui, il n'y a pas de fructose dans le fromage. Bon. Les aliments animaux passent, il n'y a pas de fructose dans les aliments animaux. Mais il y a du fructose dans la plupart des végétaux. Il faut donc prendre le listing des végétaux qu'on peut manger. Et c'est vrai, elle disait tout à l'heure, tu n'as pas entendu Philippe, mais elle disait qu'on peut manger de la rate. La rate, c'est la toute petite pomme de terre. C'est délicieux d'ailleurs. Et c'est très cher, malheureusement pour vous. Mais la vitelotte, qui est une pomme de terre violette, c'est, alors là, il faut surtout éviter parce que c'est bardé de fructose. Là, bien entendu, le manioc et la patate douce, c'est même pas la peine d'y penser. Faites donc, c'est à vous de voir, désolé de vous confier le boulot, mais c'est à vous de regarder à chaque fois le listing pour savoir quoi vous pouvez acheter.
Voilà Josette, merci pour votre question.
Josette.
Oui, parce qu'il en faut, et de la patience.
C'est surtout elle qui fait la cuisine, alors ça pose des problèmes.
Samir est avec nous. Samir, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Samir.
Bien, et vous?
Bien Samir, nous allons bien.
Bon, mais je vous écoute souvent, donc là je vous appelle aujourd'hui. Concernant mon cas, en fait, je fais 1m81 et je fais à peu près 84-85 kilos.
Bon, il n'y a pas de drame, hein.
Donc, le seul souci, monsieur le docteur de labo, c'est que, bon, c'est la bedaine et un peu les jambes un peu squelettiques.
Ah, ça, vous avez quel âge, Samir?
J'ai 37 ans, exactement.
Bon, donc vous êtes très jeune, vous avez l'âge de mon petit-fils. Oh là, mon Dieu, ça me rajeunit pas tout ça.
mais c'est vrai que souvent, on a les jambes de poulet et le petit ventre.
Oui, mais c'est une alimentation qui manque de protéines.
Alors, on vous dit ça, parce qu'on dit ça un peu gentiment, mais bon, c'est vrai que c'est très, très embêtant.
Le syndrome du poulet, c'est nouveau, ça. C'est Philippe qui l'a inventé.
Non, ça se dit couramment dans le sud. À Toulouse, chez nous, on le dit.
C'est pour ça, moi, je t'appelle mon petit poulet.
Ouais, c'est vraiment un gros lapin. Bon, alors, comment on fait dans ces cas-là? Parce que...
Attends. D'abord, Samir, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez le matin?
Je vais être honnête avec vous. Je ne déjeune pas le matin.
Voilà. Alors, ça, c'est une des premières raisons d'avoir du bide et des cuisses de poulet. Et qu'est-ce que vous mangez le midi?
Bon, ben, ça peut être des pâtes, comme disait la personne auparavant.
D'accord.
Des pâtes avec un peu de riz et du poulet ou des trucs ou de la viande.
Voilà, d'accord.
Ah, c'est des pâtes au riz, c'est équilibré.
C'est pas étonnant que vous ayez le problème que vous avez. J'aime bien ces souriants qui lèvent les yeux au ciel en disant, il est mal barré, là. Qu'est-ce que vous mangez le soir?
Des pâtes avec du poulet ou du riz avec du poulet, des trucs comme ça pour pas avoir.
Le soir?
Mais après, le soir, non.
Qu'est-ce que vous mangez le soir?
Je mange plutôt des fruits et légumes, c'est-à-dire des légumes, pardon. Tout ce qui est haricots verts, lentilles, des trucs comme ça, quoi. Voilà.
Alors, vous avez tout faux, mon pauvre ami. Vous mélangez tout, c'est une catastrophe. Vous mangez exactement ce qu'il faut pas, quand il faut pas, et vous mangez pas quand il faudrait manger. Donc, vous avez, en plus, votre léger surpoids est lié au fait que vous n'êtes pas suffisamment carnivore.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samir?
Franchement, je suis pas sportif du tout.
Non, mais comme métier.
Non, mais ça, on s'en fiche.
Chauffeur routier.
Oui, voilà. Alors ça, c'est la maladie des chauffeurs routiers, c'est le ventre. Il est l'exception.
Exactement.
Parce que
c'est
la plupart.
C'est pour ça que je posais la question, docteur.
La plupart ont beaucoup de ventre, mais ils ont aussi des grosses fesses, ils ont aussi beaucoup de cuisses. Et Samir, manifestement, a échappé au massacre de ce côté-là. Mais vous ne mangez pas assez, Samir. Vous ne mangez pas assez, vous ne mangez pas bien. Ce que je vous conseille, est-ce que vous aimez lire? Il n'y a pas de réponse.
Non, il a dit oui.
Ah oui, il a dit oui, oui j'ai
oui,
pas
oui.
entendu.
Oui, il a dit oui.
Excusez-moi, Samir, mais j'avais
c'est
pas
C'est normal, à votre âge, on n'entend plus aussi bien.
Je vous conseille de prendre... tu vas me laisser parler, espèce d'emmerdeur.
Non, mais c'est vrai, vous entendez déjà bien.
Il y a un de mes élèves qui est avec nous, alors on ne tient plus, on ne tient plus. Il est toujours comme ça, quand il y a une autre personne, il, surtout si c'est une femme, il est ah là là, et il court partout. Il y a Zora d'ailleurs qui rigole parce qu'elle sait très bien. Donc, Samir, première chose, oui, si oui. vous voulez réapprendre à être carnivore, je vous conseille de prendre le bouquin... La nouvelle chrononutrition illustrée. Vous allez être très très étonné quand vous allez le lire. C'est exactement l'envers de ce que vous faites actuellement. Mais ça vous permettra de retrouver une silhouette parfaite.
L'envers.
Ce sera l'envers de ce que vous faites actuellement. Mais ça vous permettra de retrouver une silhouette parfaite et de perdre un peu de poids, parce que vous avez besoin d'en perdre, sans faire le moindre effort. Et ça n'est pas parce que vous ne faites pas d'effort physique que vous êtes en danger. C'est parce que vous ne mangez pas bien. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas... Vous savez, j'ai énormément de chauffeurs routiers, surtout des longs courriers dans ma clientèle, parce que votre problème, il est le même pour tout le monde, c'est que vous avez pris l'habitude les uns et les autres de très très mal manger dans vos camions. Or, vous pouvez, avec les camions modernes, on peut très bien manger, on peut manger correctement.
Et d'ailleurs, vous disiez que...
Pardon, excusez-moi.
Non, Samir, docteur Delabo, vous avez l'habitude de dire que pour tous ceux qui font des métiers de la route... Donc, chauffeur-livreur, ambulancier, taxi, il y a du ventre.
Ouais. Oui.
Il y a du ventre à cause de l'habitude de manger des sandwichs ou de manger des plats qui sont tout préparés et qui contiennent beaucoup plus de féculents et de sucre lent que de viande. Et c'est ça l'erreur. Okay. Et puis et de faire des sandwichs parce qu'on peut en bouffer le sandwich au volant. Ça, c'est encore pire.
Samir vous demande le livre, le fameux là.
Alors, ça s'appelle La nouvelle chrononutrition illustrée.
Nutrition
illustrée.
Et à colorier. Bon,
bien sûr, c'est vous.
Ah bah oui, c'est le mien, docteur Delabo, vous inquiétez pas, c'est le mien. Et je suis en train de terminer le suivant pour pouvoir justement, au fur et à mesure, être suivi.
Ah ben c'est cool, c'est impeccable. Merci beaucoup en tout cas.
Mais de rien, Samir, c'est avec plaisir.
C'est sympa, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.
À vous aussi.
Et bonne route, Samir.
Je vous écoute tous les jours, vous inquiétez pas. De toute façon, on a l'habitude de la faire, on est à tous les jours dessus. À Toulouse, on est à fond dedans. Donc,
allez,
voilà.
Toulouse, merci Samir.
Ouais, bravo.
Allez, Toulouse. En force. Merci, Samir.
Allez, petite dédicace à tout le Mireille. Bagatelle, tout le monde. Au revoir. Bonne journée, revoir. Merci beaucoup. Hein.
Voilà.
Merci bien, au revoir.
On pense à Nadia El Bouga qui est à la faculté à Toulouse en ce moment, qui est en train de faire un master aussi. Elle m'a
Nadia,
elle est partie faire un master de sexologie à Toulouse et elle me dit, j'arrête pas de faire des selfies avec des auditeurs. Ben oui, parce qu'on a énormément d'auditeurs à Toulouse. Jamel est avec nous. Jamel, bonjour et bienvenue. Jamel.
Oui, bonjour.
Bonjour Jamel.
Bonjour Philippe, bonjour docteur.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Jamel, aujourd'hui? Dites-moi.
Moi, je vous appelle, j'ai des problèmes de le matin.
Oui.
J'ai des diarrhées le matin.
Vous avez des diarrhées le matin?
Après avoir déjeuné ou avant?
Avant.
C'est quand vous vous levez, vous avez des diarrhées. Qu'est-ce que vous mangez le soir?
Je mange équilibré, je mange...
Non, je n'en doute pas. Mais qu'est-ce que vous mangez?
Ça dépend des jours.
Et vous mangez quoi?
Des fois des plats traditionnels.
Oui, mais ça ne me dit pas ce qu'il y a dans votre plat, Jamel. Dites-moi ce que vous mangez.
Oui. Des légumes, pommes de terre, carottes.
Oui.
Je ne mange pas beaucoup dehors.
Oui. Et vous mangez quoi avec vos légumes?
Soit de la viande, soit de... En général, il y a toujours de la viande.
Mais c'est surtout des légumes. Et c'est quoi comme légumes?
Pommes de terre, haricots, courgettes, surtout des légumes de saison.
Oui.
D'accord. Vous mangez à quelle heure le soir, Jamel?
Je mange 20h, 21h.
D'accord. Et vous vous levez à quelle heure le matin?
5h, 4h30, 5h.
Il est décalé.
Ouais.
Alors, 4h30, 5h, et vous vous couchez à 20h30, 22h30, si j'ai bien compris. Donc, vous dormez... 6 heures à peine, quoi. 6 heures et demie.
Alors,
je pense que c'est un problème de pancréas. C'est un problème de pancréas. Vous mangez beaucoup trop de végétaux le soir et ventre pancréas, la nuit est censé un peu se reposer, il aime pas du tout ça, et ça vous colle des diarrhées le matin. Alors, vous avez deux solutions. Bon, la plus simple, c'est tout simplement de prendre ce qu'on appelle de l'Eurobiol 25000, vous trouvez ça en vente libre en pharmacie, vous en prenez deux le soir, Eurobiol 25000, d'accord ? Et vous prenez avec une gélule d'ultra-levure. Vous aurez tout ça chez le pharmacien, ça coûte 3 sous.
Alors, l'ultra-levure, quand vous connaissez le docteur de labo, c'est miracle pour ceux qui ont des diarrhées.
Exactement, c'est pas un miracle pour ceux qui ont des diarrhées, c'est un apaisant, ça aide, c'est un probiotique, puisqu'on en parle, parce qu'on n'a pas attendu le mot probiotique pour en donner, ça fait 70 ans que ça existe, l'ultra-levure, c'est un des meilleurs.
Ça coûte rien du tout, en plus.
Ça coûte rien.
Ouais.
Et puis, alors, il y a un problème, en revanche, avec le Eurobiol, c'est que c'est extrait du porc.
Ah oui.
Je viens d'y penser à l'instant, donc je voudrais pas que vous ayez des soucis à vous faire.
Des contre-indications, oui. Il n'y a pas un équivalent sans
Il faut demander au pharmacien, mais je crois pas.
Demandez l'équivalent peut-être. à l'AL.
Le porc à l'AL, je connais pas. Hein.
Non, des médicaments. C'est bête, père Delabo. Vous savez que souvent, quand les gens ont de la diarrhée, docteur Delabo, on dit qu'il faut manger du riz.
Oui, mais non, mais si mange du riz le soir, ça va aggraver les choses, les arranger.
Donc, c'est pas une bonne idée.
Non, c'est pas une bonne idée. La meilleure idée, je crois, c'est alors surtout pas de féculents le soir. Vous m'avez énuméré 4 féculents, il faut surtout pas les prendre.
Ouais.
C'est un petit peu de légumes, idéalement, mais une petite quantité, plutôt de la viande ou du poisson. L'idéal, c'est le poisson. Et vous accompagnez ça avec, essayez d'abord une gélule d'ultra-levure. Et manger surtout beaucoup de poissons et un petit peu de légumes, toujours cuits, pas en crudité, mais évitez tout ce qui est féculent. Si vous voulez savoir la différence, vous allez sur le net, vous regardez le mot féculent, et tout ce qui est féculent, il faut surtout pas le manger le soir.
D'accord. Pourquoi ?
Parce que ce sont des sucres lents et parce que ça va exciter son pancréas exocrine, le pancréas qui gère tout ce qui est matière amylacée. Et manifestement, s'il en mange trop, ça va coller des diarrhées parce qu'il va pas pouvoir les gérer toutes. Donc, tout repart.
Bien, merci Jamel pour votre question. En parlant de partir, c'est l'heure que vous y alliez, oui. Docteur Delabo.
Désolé, on
vous retrouvera avec beaucoup de plaisir lundi prochain.
Oui, je vous dis à tous et à toutes à lundi. C'était... Ah bah manifestement, ils se connaissent ces deux-là. Ah, d'accord.
Bon, on explique à ceux qui nous écoutent que Mehdi vient de rentrer dans le studio.
Et de se jeter furieusement sur Souria pour la courir de bisous.
Et qui n'est pas parti en courant, donc c'est là que vous en avez déduit qu'ils se connaissaient. Bien, docteur Delabo, à lundi et demain, je vous donne rendez-vous avec Nadia Elbouga.
Retrouvez à votre santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.